Alors, aujourd'hui, on a entre les mains un dossier spécial du magazine Eco-Business. Et le titre de l'éditorial, je trouve, donne vraiment le ton. C'est
C'est une promesse, hein?
une promesse, voilà. Passer du bruit des chiffres à la musique de la puissance. En gros, l'idée, c'est de regarder un peu sous le capot de l'économie marocaine.
Oui, pour essayer de comprendre un paradoxe.
Exactement, un vrai paradoxe. Comment un pays qui est si bon pour créer des entreprises année après année peut avoir autant de mal à les faire grandir? C'est un peu comme avoir une pépinière incroyable, mais très peu d'arbres qui deviennent vraiment grands et solides.
Tout à fait.
Et pour cette analyse, le magazine s'appuie sur une source très très sérieuse, le rapport annuel 2024 de l'Observatoire des entreprises.
L'objectif, c'est vraiment de dépasser la simple comptabilité, le décompte des créations d'entreprises. Et les fondations de l'édifice sont solides.
Alors, justement, commençons par ces fondations, la base de la pyramide. Le premier chiffre qui saute aux yeux, il est vertigineux. Près de 99% des entreprises créées chaque année au Maroc sont des micro-entreprises.
99%, c'est une domination écrasante.
On parle surtout des SARL, et en particulier des SARL à associés uniques, dont la part a presque doublé en quelques années. On est passé de 22% à plus de 40% du total.
Oui.
D'un côté, on pourrait se dire que c'est une formidable démocratisation de l'entrepreneuriat, non?
On pourrait, et c'est vrai en partie. C'est devenu très facile de créer sa structure. Mais le dossier utilise une métaphore que je trouve très parlante.
Ah oui?
Celle de l'ascenseur en panne.
L'ascenseur en panne.
Oui, créer sa petite structure de 0 à 3 salariés, c'est le rez-de-chaussée. Et ce rez-de-chaussée, il est bondé. Mais monter à l'étage, celui des PME de 10 à 50 salariés...
Là où se crée la vraie valeur ajoutée, l'emploi stable.
Exactement. Eh bien, cet étage-là, il reste quasiment vide. C'est un exploit d'y arriver. On a donc une base qui est immense, mais qui est aussi très fragile et qui reste bloquée au départ.
Et cette fragilité, j'imagine qu'elle a un coût bien réel.
Ah oui, le dossier met en lumière un autre chiffre, beaucoup moins joyeux. 10905 dissolutions d'entreprises en 2023, c'est une hausse de 32% en seulement 2 ans.
C'est une hécatombe. Comment on explique ça? C'est juste l'après-Covid?
C'est une très bonne question, parce que le chiffre brut, il peut être un peu trompeur. Il y a bien une partie de ce que le rapport appelle un rattrapage administratif.
D'accord, des régularisations.
Voilà, des entreprises qui étaient déjà mortes, mais pas encore enterrées, si on veut. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. C'est surtout le symptôme de tensions économiques bien réelles.
Lesquelles, par exemple?
Principalement, 3 choses. D'abord, le crédit devient plus cher. Ensuite, les délais de paiement s'allongent, ce qui est fatal pour la trésorerie. Et enfin, le problème de fond, une sous-capitalisation chronique. Elles n'ont aucune réserve, en fait.
Aucune?
Au premier choc, au premier gros client qui paye avec 60 jours de retard, tout l'édifice s'effondre.
Et ce phénomène, il est uniforme sur tout le territoire? Ou il y a des zones plus touchées que d'autres?
Non, bien sûr que non. La géographie de ces faillites est très, très révélatrice. Si l'ex-Casablanca-Rabat est le plus touché, en volume, ce qui est logique,
oui.
La dégradation la plus forte, la plus rapide, elle s'observe dans des régions comme Sousmassa, Fès-Meknès ou encore Marrakech-Safi.
Ce qui montre que la fragilité économique est plus aiguë en dehors du grand pôle central.
Absolument. Ça confirme que le développement n'est pas si homogène que ça. D'accord, donc on a des milliers d'entreprises qui meurent très jeunes. On a identifié un premier suspect, leur petite taille, leur fragilité. Mais le dossier suggère que le vrai coupable, il est peut-être ailleurs, du côté de l'argent.
Du côté de l'argent, voilà. On en arrive au financement et à ce que l'article appelle le paradoxe du crédit. Et là, on touche au cœur du réacteur. D'un côté, on a des chiffres qui paraissent énormes. 504 milliards de dirhams de crédit qui irriguent l'économie. On se dit, ok, l'argent est là.
Oui, a priori. Mais quand on regarde comment ce fleuve est distribué, le tableau change du tout au tout. La première répartition est simple. 59% de cette manne va aux grandes entreprises.
Attendez, 59% pour les grandes entreprises? Et le reste, donc 41%, pour l'immense océan des très petites, petites et moyennes entreprises, les TPME?
C'est ça.
Ça veut dire que moins de 1% des entreprises, les grandes, reçoivent presque 60% du financement.
Et les 99% autres se partagent les miettes. Le déséquilibre est colossal.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il y a la taille, on vient de le voir.
Oui.
Il y a la géographie. La région Casablanca-Sétat, à elle seule, aspire près de 63% de la totalité des crédits bancaires du pays.
63%, c'est ahurissant. Pour être bien clair, ça veut dire que sur 3 dirhams prêtés au Maroc, 2 vont dans la même région.
C'est ça la réalité du terrain.
Une start-up prometteuse dans la logistique à Tanger, par exemple, qui est pourtant un port mondial, a statistiquement 3 fois moins de chances d'être financée qu'une PME de service lambda à Casablanca.
C'est exactement ça. Mais la troisième concentration, c'est peut-être la plus choquante, la plus révélatrice du problème. C'est la concentration par l'âge.
Par l'âge, oui, l'âge de l'entreprise. Tenez-vous bien, 76% du crédit est alloué à des entreprises qui ont plus de 10 ans d'existence. C'est fou. Donc les jeunes, les startups de moins de 5 ans, qui représentent quand même 28% de toutes les entreprises,
elles ne reçoivent que 10% des fonds.
C'est comme si un sélectionneur sportif ne s'occupait que des vétérans et ignorait tous les jeunes talents. C'est complètement contre-productif.
Et c'est là que l'article utilise une formule qui frappe fort. Il dit que la banque marocaine finance l'archive et pas la trajectoire.
L'archive, pas la trajectoire. C'est bien vu.
La logique prudentielle, la logique classique, pousse à prêter à ceux qui ont des bilans sur 10 ans, des garanties, un historique. Une jeune boîte innovante, avec un carnet de commandes plein, est perçue comme plus risquée qu'une vieille entreprise stagnante.
Le système évalue le passé, pas le potentiel.
Voilà.
Alors comment on sort de ce cercle vicieux? Comment on fait pour avoir de l'argent quand on n'a pas encore prouvé pendant 10 ans qu'on n'en avait pas besoin? Le dossier explore une piste très intéressante, changer complètement de paradigme, c'est-à-dire...
Au lieu de financer l'entreprise, sur la base de son passé, on finance le contrat.
On finance le contrat. Oui, on s'appuie sur des éléments tangibles du futur, des bons de commande fermes, des factures validées. Et pour ça, il y a des outils comme l'affacturage inversé ou le supply chain finance. Alors, affacturage inversé, ça sonne un peu technique. En une phrase, c'est quoi l'idée?
C'est très simple, en fait. Dans l'affacturage classique, c'est la petite PME qui va voir sa banque avec une facture en lui disant « Payez-moi maintenant ». Et le risque pour la banque, il est sur la PME.
D'accord.
Dans l'affacturage inversé, c'est le grand client, le donneur d'ordre, qui initie le processus. Il va voir sa propre banque et lui dit « J'ai validé cette facture de mon petit fournisseur ». Payez-le tout de suite et moi, je vous rembourserai à l'échéance.
Ah, et donc le risque pour la banque?
Il n'est plus sur la petite PME fragile, mais sur le grand groupe, qui est solide et bien noté.
C'est très élégant, Ponce à Méchion. Mais est-ce que ça ne rend pas les PME encore plus dépendantes de leurs grands clients? Si le grand groupe change de fournisseur, la PME perd son contrat et son financement d'un coup.
C'est une excellente remarque. C'est un risque réel, le dossier ne le cache pas. Mais c'est un arbitrage entre ne pas être financé du tout et être financé via un grand client.
Le choix est vite fait.
La deuxième option permet au moins de se développer, d'embaucher et peut-être de diversifier sa clientèle plus tard. C'est une béquille pour passer les premières années, qui sont les plus dures.
D'accord. Donc, le financement est un problème majeur, mais est-ce que tous les secteurs sont logés à la même enseigne? Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants?
Oui, il y a clairement des dynamiques différentes. Le commerce, de gros et de détail, ça reste le poids lourd, avec 35% du chiffre d'affaires global.
Sans surprise.
Mais la tendance de fond la plus intéressante que le rapport met en lumière, c'est la montée en puissance du secteur transport et entreposage.
La logistique?
Exactement. Sa part dans le nombre total d'entreprises est passée de 6,3% à 7,8% en 6 ans. Ça peut paraître peu, mais c'est une croissance très très significative.
Et pourquoi c'est si important? C'est plus que des camions et des entrepôts?
Oh oui, bien plus. Le rapport le qualifiait de « back-office de la productivité nationale ». C'est la colonne vertébrale de l'économie. Si la logistique se renforce, ça veut dire que la base industrielle, la base exportatrice du pays, est en train de monter en gamme.
C'est un bon indicateur.
Un excellent indicateur. Et ce n'est pas un hasard si cette croissance est très forte dans le nord, dans la région de Tanger-Tétouan, à l'Océima. La logistique, c'est le signe que les usines tournent et que les marchandises bougent.
Très clair. Et à l'inverse de ce secteur qui monte, il y a la construction. Secteur historiquement majeur qui absorbe encore 17% du crédit, mais le rapport dit qu'il perd du terrain.
Oui, le secteur change de cycle. On sort de l'ère des grands projets neufs spectaculaires. L'avenir du BTP, c'est de plus en plus la réhabilitation de l'ancien, l'efficacité énergétique des bâtiments et toutes les infrastructures liées à la gestion de l'eau.
Un enjeu crucial.
Absolument. Et le défi, c'est d'adapter les financements à ces nouveaux marchés, qui sont plus diffus, plus techniques, mais tout aussi vitaux. Au final, le nerf de la guerre, c'est la valeur ajoutée, c'est la vraie richesse créée. Le rapport la chiffre à 528 milliards de dirhams en 2023. La question qui tue, qui empoche la mise? Alors là, l'image est sans appel. 68% de cette valeur est captée par les grandes entreprises.
Encore elle. La polarisation est extrême.
Elle l'est. Mais, et c'est un petit signe d'espoir, la part des TPME progresse lentement, mais elle progresse, passant de 31,5% à 32,4%.
C'est un début. Le véritable enjeu, là où se joue la partie, c'est ce que le dossier appelle l'étage porteur. Les petites et moyennes entreprises, les PME, elles représentent 25% de la valeur ajoutée. C'est dans cette catégorie que chaque dirham investi en robotisation ou en digitalisation a l'effet de levier le plus puissant. On parle de chiffres, d'entreprises, de secteurs, mais derrière tout ça, il y a des gens. Qu'est-ce que le rapport nous dit de l'impact sur l'emploi, sur l'inclusion ?
Il y a une bonne nouvelle de ce côté-là. L'emploi déclaré, celui qui est affilié à la sécurité sociale, a connu une belle accélération après la pandémie. On est sur un rythme de croissance de 4,9% par an, c'est positif. Mais la question c'est, est-ce que c'est une dynamique pérenne ? Et la réponse est liée à tout ce qu'on vient de dire.
J'imagine.
Cette dynamique, elle est durable seulement si on arrive à faire grandir ces entreprises. Tant que l'emploi est porté par des microstructures ultra sensibles à la conjoncture, le risque de retournement est permanent. La clé, c'est de transformer des emplois en carrières.
Avec des perspectives d'évolution, de formation.
Exactement. Et ça, seuls des PME plus solides, plus structurelles peuvent l'offrir sur le long terme. Le dossier aborde aussi un point qui est souvent un angle mort des analyses économiques, la place des femmes dirigeantes. Les chiffres sont assez crus, n'est-ce pas ?
Oui, ils montrent un biais qui persiste. Les femmes représentent 14,6% des dirigeants qui obtiennent un crédit. C'est déjà faible, mais elles n'obtiennent au final que 11,3% des montants.
Donc il y a un double plafond de verre. Elles sont moins nombreuses à demander et celles qui demandent reçoivent moins.
C'est ça. Et pour couronner le tout, cet accès au crédit est ultra concentré sur Casablanca, bien plus que pour leurs homologues masculins.
C'est le secteur, c'est...
C'est un mélange de plusieurs facteurs. Un biais de taille d'entreprise, un biais de réseau et le biais géographique. Mais au lieu de se lamenter, le dossier propose des solutions très pragmatiques. Comme quoi, oublier les guichets génériques pour femmes qui fonctionnent mal. Et plutôt mettre en place des garanties sectorielles ciblées sur les filières où les femmes excellent déjà. La santé, les services.
Et revenir à cette idée de financer le contrat, j'imagine.
Surtout. La facturage, ça neutralise les biais personnels. La banque ne regarde plus le profil de la dirigeante. Elle regarde la solidité de son client final. On finance le flux, pas le genre.
Si on devait vraiment résumer le message de fond, c'est que le Maroc n'a pas un problème de création, il a un problème de croissance.
Oui.
L'enjeu vital pour les prochaines années, c'est de réussir à bâtir ce fameux « Mittelstand » à la marocaine.
Absolument. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien le terme, le Mittelstand allemand, ce n'est pas juste des PME. C'est un écosystème d'entreprises souvent familiales, hyper spécialisées, championnes du monde dans leur niche.
Obsédées par la qualité et l'exportation.
C'est ce tissu dense qui fait la force de l'économie allemande.
Et le rapport nous dit qu'on a les moyens de le construire ici.
Oui, et les leviers sont clairement identifiés. Il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de financer plus intelligemment.
En s'appuyant sur les contrats plutôt que sur les bilans.
En garantissant des paiements rapides pour ne pas tuer la trésorerie et en accompagnant les investissements qui créent de la productivité. Il faut passer d'une économie de flux dispersée à une économie de valeur concentrée.
L'éditorial se termine sur une phrase qui, je trouve, résume parfaitement tout ça. Elle laisse à réfléchir.
Oui.
Une économie réellement émergente ne se mesure pas au nombre de matricules créées chaque année, mais à sa densité de PME robustes, bancables et exportables.